Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires.
Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. On commence à retomber un petit peu sur nos pieds là, de notre 500e qu'on a vécu dernièrement. 500 entrevues quand même. 503 aujourd'hui. Je suis bien accompagné, je trouve ça le fun. C'est de l'improvisation, j'adore. Vous le savez, ceux qui me connaissez. Des gens, des fois, qu'on pense qu'ils vont être là pour co-animer, puis il arrive des choses. Hop, là, il y a une autre personne. Un invité qui vient, il vient tout seul, il vient pas tout seul. Il amène que... Hey, c'est le fun à mort. J'adore ça. J'ai une co-animatrice improvisée, hein? Marie-Ève, qui est Bonjour. Avec nous aujourd'hui. Bonjour, Marie-Ève.
Bonjour, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
Ben oui, puis Marie-Ève Drouin, parce que c'est Drouin, RH.
Exactement.
Ouais. Tu sais, le mot RH, les deux lettres là, qu'on entend parler, là, ressources humaines, quelque chose de même. Là.
Exactement. Et donc, c'est le sujet actuellement que les gens parlent. Donc, la rétention d'employés, la productivité et surtout l'attraction des nouveaux employés.
Oui, parce que là, puis on va en parler tantôt, on va parler aussi de la présentéisme. Parce qu'il y en a qui vont à l'ouvrage, mais ils ne sont pas là pantoute. Hein? Tu sais, on parle souvent de l'absentéisme, parce que quand ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils sont malades. Hein? Ils sont malades.
Ouais.
Mais là, on va parler aussi de présentéisme. Des fois, ils sont là, puis hein, t'es-tu là, t'es pas là. Bon, c'est peut-être pas sa bonne siège. C'est la bonne siège. Voyons, le bon siège.
Ils sont peut-être mal encadrés aussi.
Ils sont peut-être mal encadrés, on va en parler. Pierre Bourassa qui est avec nous. Salut Pierre.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, content d'être là.
Ben moi aussi, je suis content que tu aies accepté mon invitation.
Oui, ben ça m'a fait plaisir de l'accepter.
Hey, puis c'est drôle en plus, sais-tu quoi Pierre? Puis je te le disais l'autre fois, puis je leur dis en nombre tellement c'est vrai, c'est qu'on n'a jamais eu de personne dans le domaine exactement comme toi présentement que tu vas nous apporter aujourd'hui après 503 entrevues, quand même. Tu sais, il y a des gens qui sont revenus deux puis trois fois, puis il y a des gens aussi, ben, c'est-à-dire pas des gens, mais des domaines d'activité dans lesquels on a... puis, tu sais, on parle d'RH, là, puis de recrutement, pis sélection, formation. Puis, tu sais, c'est des gens qu'on a régulièrement sur nos tribunes, mais on n'a pas encore abordé des sujets dans lesquels la santé mentale est impliquée. Et puis aussi de comment on va... médicamenter ça, quand? Je suis pas pire dans mon ouverture, Pierre?
Oui, oui, oui. Ça a de l'allure. C'est bon. Moi, je veux juste dire que j'attendais la 500e. Je m'étais fixé un objectif.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand ils t'ont dit le prix, ils ont dit, ah, lui, il charge trop cher, la 500e. Pierre, écoute, c'est le fun parce que quand on s'est connus dans un 5 à 7 avec notre amie Catherine à Montréal, ouais. Que je salue, Action Coach, et puis là, je me disais, colique, ça sera le fun qu'on puisse transmettre cette information-là à mes auditeurs. Puis toi, sur le coup, tu me disais, ben, il me semble que j'aurais plein d'affaires à lui dire.
Ben, absolument.
Hein? Fait que ça a fait un beau, comme on dit, un beau fit.
Ouais.
Pharmapsy, j'adore le nom. Tu le sais, je te l'ai dit à maintes reprises. Je trouve que quand tu dis à quelqu'un pharmapsy, ça veut pas mal tout dire. Explique-nous, ça vient de où, cette affaire-là, cette bibite-là?
Ben, ça part de loin. À base, nous autres, ce qu'on voulait faire chez Pharmapsy, c'est qu'on avait une volonté là très franche, très appuyée, de diminuer les impacts défavorables de la maladie mentale. Tu sais, la maladie mentale, là, au-delà de tout le reste, c'est de la détresse. C'est de la détresse, c'est de la tristesse.
Oui,
ça a un effet sur tout l'environnement, toute la famille. Ouais. Puis même des fois, trop souvent, en fait, ça peut aller même jusqu'au suicide. Ouais. Fait que nous autres, on a décidé de s'attaquer à ça. Au départ, ben là, le problème était large, donc on s'est dit, ben, première des choses, il faut informer. Il faut faire savoir que, qu'une dépression, entre autres, là, ou même la maladie mentale en général, si c'est pas traité, si c'est laissé sans traitement, ben, ça peut déboucher souvent sur l'apparition ou même et ou l'aggravation
là, de d'autres maladies.
De d'autres hein? maladies. Ouais. Comme on parle de cancer, plusieurs types de cancers, en fait, de maladies cardiovasculaires.
Commence avec une dépression, mettons, ou un burn-out ou.
Ben, il y a un phénomène sous-jacent d'inflammation, mais là, je ne veux pas trop m'avancer là-dedans parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires, mais il y a quand même une. une association très forte là, entre les maladies mentales, disons ça comme ça, et ces divers problèmes-là. Donc, une augmentation là, de... Comme, par exemple, Marie-Ève, ici, si elle est en dépression, ben elle aurait 4,4 fois plus de chances d'avoir un cancer du sein.
Quand même. Durant ça, c'est prouvé. Là, c'est pas des stats qu'on a décidé de lancer un matin en se levant.
Ah non. Puis ça va même plus loin que ça. Mm-hmm. Là, même, il y a certaines études récentes là, qui démontrent qu'avoir une maladie mentale tôt dans la vie, là, ça augmente les risques de développer la démence à un plus jeune âge. Donc, on peut voir des maladies d'Alzheimer qui apparaîtraient 5 ans plus tôt.
Mais j'imagine qu'un des problèmes, c'est l'accès justement aux soins de santé qui est de plus en plus difficile. Une pénurie de main-d'œuvre, ça touche pas juste les domaines manufacturiers, ça touche aussi le secteur de la santé. J'imagine qu'une des raisons pour lesquelles les gens n'osent pas traiter d'avance ou être en mode proactif quand ils sentent une problématique de santé mentale, c'est aussi l'accès.
L'accès, c'est pas toujours facile.
Au domaine de la santé.
Bien, oui, tu as raison, ça, c'est clair, là. Comme le nez au milieu de la face, j'oserais dire, mais...
Le nez au milieu de la face, j'aime ça! Mon grand-père disait ça!
Ça donne une idée de mon âge.
Non, c'est pas ça que je voulais dire.
Mais de façon générale, c'est vrai ce que Marie-Ève vient de dire. Par contre, ce qui est aussi vrai, puis ce qui est grave, à mon sens, à moi, c'est cette idée, cette conviction là, que c'est psychologique. T'as rien qu'à te prendre en main.
Prends l'air, va prendre l'air, là, ça
c'est
te fait
ça.
Du bien.
Puis ça va se passer. Puis, puis c'est pour ça, moi, que je veux quand même le dire, là. Il y a des maladies attachées à ça. Non. Si tu dis ça va se passer, ben tu dis, garde, cours-donc après avoir une maladie haute, cours-donc après une aggravation de ton état de santé. Ben oui. C'est un peu ça, puis il faut arrêter de dire ça. Là.
C'est pour ça, Pierre, que tu dis, puis je reprends tes paroles, il faut enseigner, il faut donner de l'information. Il faut informer les gens, parce qu'il y a tellement de... Pas juste des tabous, mais il y a des paradigmes derrière plein d'affaires, hein, des croyances.
Le jugement des autres. Hein? Les gens veulent bien paraître, veulent plaire aux gens. Donc, souvent, il y a peut-être des gens qui vont s'empêcher, justement, d'avoir de l'aide parce qu'ils ne veulent pas paraître aux yeux des gens comme faibles ou comme « Ah, mais pourquoi moi, j'aurais plus besoin qu'une autre personne? »
Puis les présidents d'entreprise, présidentes, hein? Puis les chefs d'entreprise, les gestionnaires haut placés.
Ouais.
Elles autres, c'est des forts. Ils sont forts, sont tough. Fait que là, je peux pas aller là, moi. Hein? Je peux pas prendre des pilules, là.
Ouais, puis il y a aussi une question de genre. Ce que je veux dire, c'est que les femmes vont plus naturellement aller chercher des soins. On a beaucoup de soins à l'heure actuelle, là, que ce soit les soins de programme d'aide aux employés ou qui sont disponibles en entreprise.
Le gars, il va moins? Il va moins, tu penses?
Ben oui, parce que figure-toi, Réjean, là, faut que tu dises à ta conjointe que là, tu vas aller voir le psychologue à soir parce que tu files pas.
Ouais. Tu files bizarre, mettons.
Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, une femme va avoir plus de facilité à dire, ben moi, je ne file pas, je vais aller voir le. Mais un homme, c'est comme on a cette espèce de...
Ouais, c'est vieux paradigme-là. Hein?
Faut évoluer un peu. Puis j'imagine que depuis la pandémie, on voit une augmentation des cas aussi qui éclos dans la société parce qu'il y a eu une pression supplémentaire sur les gens. Là. J'imagine que ça doit paraître dans ce que vous entendez sur le marché du travail, dans le fond.
Ben en fait, ce qui illustre bien le sujet que tu abordes, c'est le fait que nous autres, dans certaines entreprises où on a installé nos soins, notamment notre dépistage proactif, on a trouvé des gens malades et dans certains cas très malades.
Puis qu'ils ne savaient pas?
Ils ne savaient pas, ils ignoraient. Ça, je n'ai pas réponse à ta question. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que dans ces entreprises-là, on avait un programme d'aide aux employés installé depuis belle lurette. On avait la télémédecine qui était disponible. On avait même, dans un cas en particulier, un comité de soins, un comité interne pour les soins en santé mentale. Et malgré tout ça, nous autres, on arrive avec notre dépistage proactif. Puis, on invite les gens à faire des tests qui vont aller chercher là, leur humeur. Et puis, on se rend compte que, wow, on a, dans ceux qui ont, on a presque 30 % de ceux qui ont répondu, 20 à 30 %.
C'est quand même beaucoup.
Ben oui, puis dans certains cas, on parle de dépression majeure. Là,
question qui est sur toutes les langues que je vais poser, Pierre, quand ces gens-là font ces tests-là, est-ce que ça fait plus d'arrêts de travail en entreprise?
Oui.
Bien, je veux dire, c'est sûr qu'un cas de dépression majeure, là, c'est assez difficile de le garder en poste. Par contre, il y a souvent de fois des cas où est-ce que on est capable, si on les prend assez en amont, assez tôt, on va être capable de les garder. On va les traiter, soit qui c'est pas toujours des pilules, ça peut être juste des sessions avec le psychologue. Mm-hmm. Mais si on est capable d'aller chercher assez tôt, on va réussir à les garder en poste, tout en les traitant, puis on va réussir à éviter que, c'est une belle formule que j'ai trouvée ça, éviter que leur présentéisme se transforme en absentéisme.
Oui, ben oui.
Puis ça, c'est ce qu'on va chercher à faire le plus souvent. Puis la meilleure chance qu'on a de le faire, c'est en ayant un mécanisme de dépistage qui est proactif. Mmh.
Quand tu dis, ça fait deux ou trois fois que tu le mentionnes, Pierre, quand tu parles de dépistage, l'espèce de test que vous avez mis en place, tu me corriges, je dis des niaiseries. Parle-nous-en donc.
Jusqu'à date, t'es pas pire.
Parle-nous-en donc de ce test-là.
En fait, c'est tout simple. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a des tests qui sont assez bien connus, en fait, je dirais même massivement connus dans le domaine de la santé. Je mentionne tout simplement le PHQ-9, qui est l'acronyme, c'est Patient Health Questionnaire 9. Il y a 9 questions, 0 à 3. Et puis, maximum que tu peux coter, c'est 27, puis minimum, c'est 0. Si tu cotes en bas de 7, t'as pas de, en bas de 10, pardon, tu n'as pas de besoin de médicaments. En bas de 5, tu n'as pas besoin de rien. Puis en haut, tu as peut-être besoin de psychothérapie puis de médicaments.
Ah oui.
Mais le point, c'est juste de dire que il s'agit de... On est rendu à 6, là, 6 tests standardisés qui permettent de prendre une photo tantôt de la dépression, tantôt de l'anxiété, tantôt de du fonctionnement général, tant professionnel que le fonctionnement personnel.
Personnel, professionnel, voilà.
C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a ces tests-là sur notre site web de PharmaPsy, et quand on signe avec une compagnie, on va ouvrir un espace privé confidentiel pour chacun des employés. Ensuite...
Ah, ça faisait partie de mes questions, parce que tôt ou tard, il y a une certaine discrétion. Hein?
Absolument, absolument. Donc, puis ça, c'est sécurisé sans problème. Donc, on ouvre cet espace privé-là, et ensuite, on va s'assurer, avec les gens de la compagnie, avec le management de la compagnie, on va s'assurer de former les gens, d'aller expliquer, vulgariser, informer, pour leur dire que, oui, comme j'ai dit tantôt, il y a des maladies qui sont liées à ça. Oui, il faut traiter. Mais oui aussi, c'est quoi le traitement, là? Est-ce qu'on donne toujours des pilules? Non, c'est pas vrai.
Ouais.
Puis, les pilules, qu'est-ce que ça fait, là? C'est-tu si dangereux que ça?
C'est quoi les effets secondaires?
Y a-tu de l'accoutumance, ce genre de choses-là? On explique tout ça. Puis, c'est des pharmaciens spécialisés en psychiatrie qui vont expliquer ça.
Wow.
On le fait en webinaire. Puis, à partir de ce moment-là, après, les gens sont libres d'aller faire les tests. Mais la différence, c'est que...
Ils ont l'information.
Bien, c'est-à-dire qu'ils vont faire les tests quand même, mais ils vont aller faire les tests plus souvent probablement. Et j'en veux, pour exemple, notre madame qui était très malade puis qui avait à sa disposition un programme d'aide aux employés et tout ça. Bien, il va aller les faire, puis là, bien, ça peut être par curiosité, ça peut être... Bien, ils les font, puis là, bien, nous autres, ça cote tout de suite. On le sait tout de suite.
Mm-hmm.
Puis là, bien, on peut les identifier. Puis là, bien, l'étape suivante, c'est de les garder au travail autant que faire se peut, puis de les aider.
Pas les sortir.
Pas les sortir, c'est clair.
Des fois, tu vas sortir, puis peut-être que Marie-Ève pourrait nous donner des statistiques là-dessus, mais des fois, tu vas sortir l'employé pour justement des raisons de maladie, mais ça va être dur de la rentrer. Hein?
Exact. Mais en fait, plus l'arrêt de travail va être long, plus l'expérience nous prouve que c'est difficile de revenir. Pourquoi? Pour deux facteurs. Un, l'organisation, c'est réorganisé. Parce qu'évidemment, quand on sort quelqu'un de l'organisation, c'est ses tâches. Mmh. Donc, tout l'environnement change.
Son bureau.
Son bureau. Et là, on a peut-être eu des collègues de travail qui ont été en surcharge de travail, justement, parce
que
c'est rare que les gens quittent en arrêt de travail en prévenant avec un préavis de 6 semaines d'avance. Écoutez, gang, dans 6 semaines, je vais être malade, je ne vivrai pas bien. Donc, je vais m'en aller à la maison. Donc, je vais vous préparer un guide pour que vous n'ayez pas de problème à faire mon travail. Vous allez tout savoir où est. Habituellement, avant de quitter, on le voit dans leur travail, il y a plus de présentéisme ou sont moins productifs. Donc, des fois, il y a déjà des dossiers en retard. Donc, des fois, c'est un petit peu plus bordélique dans leur dossier. Tu sais, les symptômes transparaissent dans leur travail. Donc, la journée où ils sortent du travail, Là, les collègues vivent un petit peu de frustration, d'où l'importance d'avoir préparé son organisation.
Moi, je le savais, là, elle ou lui, hein, on le savait, nous autres.
Exact. Donc, la personne est gênée aussi de revenir, de dire, moi, j'ai créé cet état-là aux gens. Donc, il y a aussi de,
ouais,
est-ce que je vais être encore capable de faire mon travail? On revient de vacances après 3 semaines, puis hein, la première semaine, il faut reprendre le beat. Hein? Tout le monde vit ça quand on part en vacances très longtemps.
T'as raison.
Fait qu'imaginez si vous quittez pendant 6-7 semaines pour maladie. Vous devez réapprendre alors que les autres, ils n'ont pas arrêté, eux. Ils ont continué à évoluer.
Puis tu leur as peut-être donné beaucoup de travail, de surcharge, comme
exactement.
Tu disais.
Exactement. Donc, pour eux, c'est comme un double apprentissage.
Oui, fait que l'absentéisme puis le présentéisme, hein, c'est deux mots que...
Qui coûte cher.
Qui coûte cher, c'est
mais
bien
en fait, si je peux me permettre d'ajouter, ah là, oui, il y a des études qui ont prouvé, là, notamment, on peut trouver ça sur le site de Mindbeacon, là, qui n'est pas exactement notre compétiteur, mais qui il y a 71, en tout cas, peu importe, là, il y a, ça c'est répertorié dans plusieurs sources, jusqu'à 3/4 de la perte de productivité en entreprise qui est causée par le présentéisme.
Ben oui. Ils sont là, mais ils sont pas
c'est
là.
C'est fou, hein?
Ben oui.
C'est fou. Puis, en fait, le problème, c'est qu'on crée un épuisement auprès des propriétaires dans ces moments-là.
Absolument.
Parce qu'il y a un stress financier qui est rattaché à ça. Puis, en plus, on est dans un contexte où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, les gens qu'on a, on veut qu'ils fassent vraiment 100% de leurs tâches.
On
ne
veut pas les perdre.
On ne veut pas les perdre, mais on ne veut pas non plus qu'ils soient au tiers productifs.
Ben oui. Puis, c'est le cas, hein? Parce que, comme tu dis, un présentéiste, c'est exactement ça. La personne est là à tous les jours.
Ben ouais, pis...
Mais bon, t'as dit que ça avance pas.
Ben, y a moyen de créer, je pense, un momentum aussi en gardant la personne au travail, parce qu'on sait aussi que les abandons de traitement, qu'ils soient pharmacologiques ou non, c'est presque, encore une fois, c'est le 3/4 des patients.
C'est beau.
C'est le 3/4 des gens
énorme.
Qui arrêtent.
Ben oui.
Puis après ça, ben, c'est le chemin le plus sûr, ou du moins en dépression, vers la récidive, puis vers la maladie chronique.
Vers la maladie, oui. Plus grave. Bien, plus grave, parce que c'est quand même grave.
Oui, mais là, quand on parle de chronique, là, il y a 40 % des dépressions, bon an, mal an, qui deviennent chroniques puis résistantes au traitement.
Ça veut dire que le traitement ne fonctionne pas.
Ça veut dire qu'il n'y a plus de traitement qui fonctionne.
Oh boy.
Ça veut dire qu'il y a des traitements très extrémistes, là, comme par exemple les électrochocs. C'est juste ça qui reste pour ces patients-là.
C'est pas drôle, hein?
Puis ça, ben
c'est pour ça que le suicide aussi, le taux du suicide augmente de plus en plus.
Ben oui, puis ça fait partie de la maladie. Mais comme je veux parler de ce momentum-là, où est-ce qu'on garde la personne au travail, on la traite sur le travail, on l'encourage sur le travail, encore une fois, que ce soit simplement avec de la psychothérapie et ou avec de la pharmacothérapie, ben pas et ou et avec la pharmacothérapie.
Les deux se combinent.
Oui, parce qu'on ne verra jamais de pharmacothérapie
juste seule. D'un bar, oui, c'est ça.
C'est ça. Mais quand on les garde là, on les traite, bien là, ils restent sur le travail, puis là, tranquillement, pas vite, ils reprennent leur productivité d'antan. Puis là, bien, on se ramasse autrement. Tout ce qui traîne se salit. C'est un vieux dicton.
Mais c'est encore très vrai.
Dans la maladie mentale, c'est tellement vrai là, que c'est...
Puis moi, j'aimerais peut-être que tu parles, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger, toi et moi, Pierre, par rapport justement à votre façon de fonctionner. Mais souvent, on entend les gens dire, oui, mais moi, j'ai même pas de médecin de famille. Moi, je le sais, j'ai 3 enfants. Et avoir un médecin de famille, c'est déjà...
C'est un cadeau.
On est béni. C'est ben comme oui. Une course à obstacles pour obtenir un médecin de famille. Donc, j'imagine la personne qui n'a pas nécessairement d'autres problèmes de santé, donc qui n'a pas nécessairement eu accès à un médecin de famille et qui ressent le besoin... J'aimerais ça t'entendre sur votre approche parce qu'il y a eu un cas où, justement, vous avez récupéré la personne plus rapidement parce que vous y avez donné accès. Est-ce que tu peux nous en parler?
Écoute, Réjean, t'apprends comme co-animatrice.
Ben, écoute, moi...
Elle a le tour.
Non, regarde, là, j'écoute. Hein, t'as vu comment j'apprends?
Je pense qu'il y a meilleur que toi, Marco. Non, mais sérieusement, merci Marie-Ève pour cette question-là.
Très
parce
bonne
que,
question, en passant.
Parce que oui, on a eu un cas qui illustre très bien, mais attention, moi, je ne suis pas en train de dire ici que PharmaPsy va vous trouver un médecin traitant. Mais par contre, l'utilisation des pharmaciens spécialisés en psychiatrie donne cette opportunité. Bon, disons, je raconte le cas, puis on y reviendra. Alors, on a le cas d'une dame, un cas réel. C'est une dame qui s'appelait, ben moi, on l'a appelée Edith, là. Et puis, 39 ans, 5 enfants. Elle faisait partie d'une compagnie familiale. Et tranquillement, pas vite, on l'a mis de côté parce qu'elle était trop anxieuse. suivi par un psychologue, et puis dans la compagnie, mais elle s'en fait encore à propos de la compagnie. Puis là, une anxiété, là, vraiment, là...
Maximum,
oui. J'allais dire pathologique, mais j'aime mieux maximum. Mais donc, une anxiété vraiment grave. Et puis là, le psychologue, bien, comme je disais, on a d'abord la psychothérapie, puis peut-être ensuite les médicaments. Mm-hmm. Puis là, bien, c'est ça qui se passe. Le psychologue, mais elle n'a pas de médecin traitant, la madame. Elle n'a pas de médecin traitant, puis là, le psychologue, il dit, il faut qu'elle aille des médicaments.
Et le psychologue, lui, il n'est pas... Vous me corrigez, là, mais il ne peut pas prescrire. Hein?
Absolument pas. Les pharmaciens ne peuvent pas établir de diagnostic.
Non, c'est ça.
Ils peuvent faire le suivi, puis ils sont les mieux placés pour faire le suivi.
Ben oui.
Puis surtout les pharmaciens, nous autres, les pharmaciens qu'on utilise, ce sont des pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques, dans les départements de pharmacie.
Ah, tu vois que le nom est bon, hein?
Donc, je reviens à notre histoire de notre madame. Le psychologue nous l'achemine, puis il dit, là, je sais pas quoi faire avec ça, a besoin de... Fait que là, ben la pharmacienne de pharmapsy a fait un examen en visioconférence, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, nous autres. Ça nous donne l'ouverture sur tout le Québec, là. Donc, en visioconférence, elle a fait un test pour mesurer l'intensité de la dépression. Les mêmes tests que je vous ai parlé tantôt. Un autre test pour mesurer l'intensité de son anxiété. Un autre test pour mesurer son fonctionnement, tant professionnel que personnel. Et puis là, elle a obtenu des résultats. Et là, je mets entre parenthèses, c'est pas un diagnostic qu'on établit. On a donné des chiffres qui sont parfaitement compris qui peuvent être parfaitement compris en un clin d'œil par un médecin. Et ces chiffres-là dénotaient, puis ça, les échelles sont disponibles sur l'Internet, ça dénotait une dépression, un état de dépression léger. Ça dénotait une anxiété sévère. Et un fonctionnement très altéré, tant du côté personnel que professionnel.
Très limité.
Donc, la pharmacienne a rédigé un rapport à l'intention d'un médecin et elle a acheminé ce rapport-là au CLSC local. Elle a envoyé Edith au CLSC, au sans rendez-vous du CLSC. Et puis là, la médecin qui était au sans rendez-vous, elle avait d'un côté le rapport avec une analyse complète de l'état d'Edith, puis elle avait Edith qui était en détresse. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a suivi la loi 31, pour y venir, l'esprit de la loi 31, puis elle a carrément posé un diagnostic d'anxiété et elle a demandé le suivi à pharmacie ou au pharmacien, médical. Le suivi médical, qui soit fait par pharmacie. Et puis, ben, au bout de 2 semaines... Le suivi pendant un mois, puis il est retourné travailler.
Wow.
Ben, pas retourné travailler, mais est devenu correct. Là.
Ben, comme tu dis, Marie-Ève, s'il n'y avait pas eu l'intervention de pharmapsy dans ça, si je comprends bien, là,
ouais.
Et la madame, elle serait peut-être encore malade.
Ben oui, hein? Mais c'est le médecin du CLSC, c'est pas devenu son médecin traitant.
Non,
elle a juste, elle s'est servi de l'esprit de la loi 31.
C'est un bel
pour
outil.
Dire, ah, ben oui, parce que la loi 31, en essence, ce que ça dit, c'est la RAMQ qui vient dire au médecin, ben écoutez, vous n'avez pas le temps, vous avez des difficultés à suivre les patients, pas rien qu'en santé mentale, dans toutes les... Puis on encourage à ce que vous déléguiez le suivi aux pharmaciens.
Ouais.
Et on va même payer les pharmaciens parce qu'ils font sous l'égide de la loi 31. Ils vont donner des honoraires aux pharmaciens pour que ceux-ci prennent en charge le suivi des patients. C'est pas rien qu'en santé mentale, c'est en hypertension,
c'est en
n'importe quoi. Donc,
ça délonde un peu le
système de santé.
C'est ça. Puis la demande de consultation, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, elle peut être faite soit du médecin vers le pharmacien ou du pharmacien. Bien là, ça devient une proposition, mais du pharmacien vers le médecin.
Wow.
Alors, nous autres, chez Pharmapsy, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis en ayant des pharmaciens qui travaillent dans les départements de pharmacie des hôpitaux en psychiatrie, on a là la plus grande expertise disponible.
La sommité, ben oui, tout à fait.
Du médicament.
Ben oui.
Mais le diagnostic doit être établi par le médecin. Mais là, si le cas d'Edith illustre bien comment on peut se débrouiller.
Ben
les
oui.
pharmaciens ont quand même ils sont quand même assez proches là, des. Puis les pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux en psychiatrie. Les pharmaciens spécialisés en psychiatrie ont souvent une réputation qui fait en sorte que quand un médecin reçoit un papier, dans bien des cas,
Il prend au sérieux.
Oui, c'est ça.
Oh, c'est le fun, j'aime ça. J'aime entendre ça, c'est de la musique à mes oreilles. Puis on dit souvent, hein, quand on n'est pas dans le système de santé, on a un bon système un coup qu'on est dedans.
Oui.
Mais
ouais.
Le coup d'être c'est un peu vrai, hein?
Oui.
Le coup d'entrée, c'est lourd des fois. On ne souhaite pas de mal à personne, on ne souhaite pas, mais l'idéal, c'est de rentrer en ambulance.
Ouais.
Non, mais c'est niaiseux. Pierre, tu parles souvent du test, puis tout ça, puis je comprends l'avantage de ce test-là, mais est-ce qu'on peut avoir un bride de questions? À quoi ça ressemble, ces fameux tests-là? Comment ça se passe?
En fait, j'en ai pas sous la main. Ce sont des questions relativement simples.
Tu disais tantôt une dizaine de questions?
Dans le cas du PHQ-9, c'est 9 questions. Dans le cas du GAD-7, qui est le test pour l'anxiété, on parle d'à peu près... je suis même pas sûr là, du nombre de questions. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce test-là, le PHQ-9, parlons du PHQ-9, tu sais, Réjean, si tu ouvres ton ordinateur, là, tu vas l'avoir, le PHQ-9.
Ah, OK.
Tu sais, tu as juste à taper PHQ-9, puis il va t'apparaître le questionnaire. Non seulement le questionnaire, mais encore, il va t'apparaître l'interprétation des scores.
Ah.
Donc, c'est très standardisé.
Je peux le faire moi-même, à la maison. Quelqu'un peut faire le test lui-même, voir dans quelle situation il peut être, dans quel état.
Oui, c'est ça. C'est un peu ça qu'on propose aux employés des compagnies avec qui on signe chez PharmaPsy. Sauf que la différence, c'est qu'à un moment donné, tu vas me dire, tu vas regarder le test tantôt, tu vas me dire, regarde, c'est facile à tricher. J'ai Oui.
Mais je vais mettre 0 au lieu de 3. Je vais mettre 3 au lieu de 0.
C'est sûr qu'on ne peut pas... À l'impossible, nul n'est tenu, comme on dit.
Mais en
quelque part, si tu cotais bien haut, bien là, on a la rencontre avec le pharmacien ou la pharmacienne de PharmaPsy. Puis là, c'est une entrevue.
Aha.
Puis là, on va passer un premier PHQ-9. Notre méthode, elle est toute simple. Là. On passe un premier PHQ-9, un premier test à l'entrée. 2 semaines après, on en passe un deuxième. Et s'il n'y a pas une amélioration de 20% minimale entre les deux tests, à ce moment-là, il faut absolument intervenir. Parce que si on n'intervient pas, on diminue par 5 la probabilité que ça aille bien à long terme.
J'adore.
Puis ça, c'est basé sur une méta-analyse de 41 études qui regroupait plus que 6500 patients. Donc, c'est pas des...
C'est pas sur 10 cobayes, là.
Non. Puis ça date de 2004, ce papier-là. Hein.
Oui.
Parce qu'encore une fois, les patients en dépression, là, on se parle souvent de la dépression parce que c'est ça qui est le plus documenté.
C'est le plus gros, c'est ça.
Les patients en dépression, là, à l'heure actuelle, ils ne voient pas leur médecin aux 2 semaines. Pas parce que
c'est
les médecins...
Triste, ça.
C'est vraiment triste, en fait. Mais c'est un peu partout comme ça, le manque d'accompagnement. Puis on le voit dans les entreprises, on voit des propriétaires qui sont découragés. On s'en parlait tout à l'heure hors d'onde. Je dirais que moi, il n'y a pas une semaine où je n'ai pas un entrepreneur qui m'appelle et me dit « Marie, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. C'est trop compliqué de gérer du monde. Il y a trop de problèmes. Il y a des chicanes. Il y a des gens qui veulent partir. Les gens ont une pression énorme dans le milieu du travail. Puis d'avoir des joueurs dans l'équipe qui ne vont pas bien, mais des gens qui veulent... qui les aiment. En fait, souvent, on apprécie nos collègues, le propriétaire d'entreprise, il veut le bien de ses employés, c'est son capital à l'interne.
Absolument.
Mais en même temps, il dit, écoute, moi, je ne suis pas outillé pour les aider. Ça ne m'appartient pas, cette partie. Il y a une partie que je ne peux pas aider, d'où la solution de PharmaPsy qui vient dire, bien, écoute, cette partie-là qui est plus individuelle, nous, on va travailler du côté corporatif, donc on va travailler du côté organisationnel. Comment on peut réduire le stress, la surcharge de travail sur les collègues, comment on peut optimiser aussi ton équipe pour qu'il y ait une plus grande valeur ajoutée, donc faire plus avec moins. Et durant ce temps-là, prends un volet comme une solution comme PharmaPsy pour traiter l'individu puis pour l'accompagner parce que ce n'est pas la force d'organisation et ce n'est surtout pas dans son champ de compétences.
C'est pas son domaine, hein. C'est pas nécessaire.
Puis aussi, nous autres, c'est sûr que PharmaPsy, on se spécialise d'abord et avant tout dans le traitement pharmacologique, mais souvent, toutes les compagnies ont des programmes d'aide aux employés, puis on va aller de ce côté-là pour les soins en psychologie. Et puis, encore une fois, notre dépistage proactif, il sert à une chose, c'est-à-dire, oui, toi, tu as besoin d'un traitement psychothérapie, mais tu n'as pas besoin de médicaments, puis c'est même pas éthique de t'en donner. Puis,
tu peux faire la lumière entre les deux.
C'est ça.
Mais c'est ça, ça part de où, ça, PharmaPsy? Là, t'sais, on parle bien de PharmaPsy depuis tantôt, là, mais c'est comment c'est né? Non, mais je veux dire, c'est une entreprise, puis on voit les avantages, là, mais ça part de où? C'est quoi la graine là, qui est arrivée?
Ben, comme je t'ai dit, comme j'avais commencé à dire, tu m'as interrompu.
Mais
comme...
Ben oui, je suis tellement pas bon comme animateur, là, Seigneur. Ça va
bon pourtant, sens. Marie-Ève est tellement bonne.
Ben oui, t'as pas vu ça, non, toi, Marie-Ève.
Non, mais non, j'ai pas vu ça.
Je t'agace.
Non, je comprends pas
ça, personne. Ben, non, mais sérieusement, on est parti d'une ambition. On est parti d'une ambition de régler ces problèmes-là, ouais. De régler un 40 % de gens qui deviennent dépressifs,
ouais.
Chroniques.
Ouais.
On est parti de ça, mais là, on avait besoin d'une espèce de véhicule, je dirais. Parce que là, tu sais, c'est sûr que tout le monde est pour la vertu, là.
On veut tout, mais comment?
Hein? Ouais, c'est ça. Comment faire? Fait que là, on a cherché. Puis on est tombé sur une donnée qui, à mon sens, a été un catalyseur. C'est cette donnée qu'on a, encore une fois, c'est quasiment toutes des 40 % mais que vous le c'est comme ça.
C'est ça, le chef.
Statistique Canada a rapporté qu'il y a 4 personnes sur 10 qui vont travailler, c'est-à-dire 4 personnes sur 10 diagnostiquées d'une maladie mentale,
ouais.
Qui vont pas manquer un seul jour de travail durant toute l'année.
Oui, c'est beaucoup.
Fait que là, ça a été comme le catalyseur, parce que là, on en a parlé tantôt. Diminution de la productivité, diminution de présentéisme et tout ça. Donc, on avait notre catalyseur, on avait notre solution, on avait notre véhicule. Parce que là, on s'est dit, OK, on peut approcher les entreprises en leur démontrant l'importance d'éviter le présentéisme, si je puis dire.
Ben oui.
Et puis, partant, on peut développer un modèle d'affaires là-dessus. Parce que...
Il y a peut-être une business en arrière de ça.
Bien, il y a peut-être une business en arrière de ça, mais la business, c'est le véhicule. Je veux vraiment exprimer ça. La business, c'est le véhicule. Ça nous permet d'arriver à nos ambitions. Mm-hmm. C'est sûr qu'on n'est pas là pour perdre de l'argent non plus,
C'est initialement, c'est altruiste.
Ouais.
Hein? Ce qu'on veut, c'est donner de l'information, c'est aider.
Aider.
Mais il y a une entreprise en arrière de ça.
Ben ouais.
Tu gagnes ta vie, là.
Puis on remplit... Moi, j'aime ça dire, j'aime beaucoup les images, mais j'aime ça dire qu'on est un peu comme la ville, on remplit les nids de poules.
Ouais.
On ne va pas tasser les...
Tu ne refais pas les rues, là.
Non, je ne refais pas la rue au complet. La rue au complet était faite par le programme d'aide aux employés, était faite par la télémédecine.
Ouais. Mais remplir les trous.
C'est juste remplir les trous.
Les lacunes, les manques.
C'est ça. Bon. Quand on a besoin, moi, je pourrais pas facilement te revoir... La télémédecine comme un allié aussi, parce
ben
que
oui.
Dans certains cas, donc le médecin, encore une fois, délègue le suivi, parce qu'un suivi en santé mentale, là, c'est
non,
pas facile,
non,
c'est lourd.
Ben oui.
Puis en même temps, moi, j'ai été chercher, puis j'ai pas peur de l'avouer, c'est moi qui ai approché Marie-Ève en premier, parce que je trouvais qu'il y avait, quelque chose qui me boguait, c'est ce qu'on appelle le burn-out.
Mm-hmm.
Le burn-out, là, c'est pas juste une dépression. C'est pas juste quelque chose qui peut se régler avec de la psychothérapie. Puis il y a un problème d'organisation. Puis quand j'ai expliqué ma préoccupation à Marie-Ève, elle m'est revenue avec, et je te cite, la phrase 360 degrés.
Mm.
Parce que là, comme c'est l'organisation. L'RH, le cabinet de droit RH, prend en charge l'organisation. On s'occupe de l'individu. Puis ensemble, on couvre les 360
degrés. En fait, ce que je voyais beaucoup en entreprise comme problématique, c'est quand il y a des gens qui ne vont pas bien. Bon, premièrement, on a des gens qui sont désemparés. Donc, les propriétaires qui disent « Écoute, je le vois bien, là, ça va moins bien. Elle ne veut pas s'en aller en arrêt de travail, mais la productivité n'est plus là. Puis écoute, Marie... J'ai déjà de la difficulté à recruter du monde. S'il faut qu'elle parte en plus, je vais être honnête avec toi, je ne sais pas ce que je vais faire. » Donc, on voyait une organisation qui était un petit peu désemparée. Et à l'inverse, quand les gens revenaient, si par exemple, ils partaient en arrêt de travail et ils revenaient, mais le problème, ils revenaient tout le temps parce que des fois, c'est causé où on vient amplifier la problématique de santé mentale parce que les rôles sont mal définis. Parce qu'il y a un mauvais climat de travail. Des fois, il y a des relations toxiques en entreprise. Nous, on fait beaucoup de diagnostics de climat de travail, de diagnostics RH, pour dire, bien, comment votre organisation est? C'est un peu comme le test de santé, mais pour l'organisation, pour dire, est-ce que vous avez les meilleurs outils, les meilleures pratiques pour avoir des employés qui vont être productifs, des employés qui vont être efficaces et heureux.
Sains.
Donc, la personne, une fois qu'elle est traitée, il manquait l'espèce d'approche de « OK, mais au retour, comment on peut faire pour accompagner? » Est-ce qu'on fait des gestions de changement? Souvent, là, actuellement, les entreprises changent à un rythme épouvantable et la technologie va que accélérer le changement. On le voit à la technologie avec maintenant les agents AI. Donc, tout est en train de se révolutionner dans les pratiques d'affaires. Ça cause un stress énorme chez les gens. Donc, imaginez que l'entreprise ne prend pas le temps de faire une bonne gestion de changement, ne prend pas le temps de préparer ces gens, mais ils vont amplifier le phénomène. Donc, en faisant une approche 360, on vient gérer le facteur individuel parce qu'évidemment, chaque personne est conçue différemment, a ses propres limitations aussi, ses propres enjeux, mais on vient aussi accompagner l'organisation pour donner tous les outils pour maximiser le potentiel de chaque employé. Puis, savez-vous quoi? La première personne qui va gagner à ça, c'est oui l'employé, mais oui le propriétaire.
Bien,
parce que derrière l'entreprise, là, bien, il y a un humain.
Moi, j'adore cette phrase-là. Je ne sais pas combien de fois qu'on peut la dire dans une année, mais c'est tellement vrai.
Là, puis,
on parle d'entrepreneurs, des toughs, hein? C'est des toughs, les entrepreneurs.
Ben, c'est ça. À ce sujet-là aussi, nous autres, on a adopté une nouvelle approche, fruit des discussions entre moi et Marie-Ève, pour encore une fois. Moi, je suis pas bon pour trouver des idées. Je prends celles des autres.
Ben oui, c'est correct, ça. Au moins qu'ils ne se perdent pas, hein?
C'est ça. Mais la façon générale, on a commencé cette pratique, c'est qu'on invite les entrepreneurs qui ont un intérêt envers PharmaPsie de l'essayer eux-mêmes.
Ben oui,
on essaye, on tout simplement, juste essayer d'aller faire les tests eux-mêmes, aller voir ce que c'est. C'est sûr qu'on ne fera pas une formation pour chaque entrepreneur, puis on ne fera pas ça pour tous les employés, mais on fait ça pour les décideurs parce que, comme le disait Marie-Ève, souvent, ils sont
rendus là, eux autres aussi.
Ben, c'est ça.
Mais la pression, en fait, des dernières années avec la pandémie, l'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation, la pénurie de main
d'œuvre. Comme on dit, tous les ingrédients sont là pour que la soupe soit...
Exact. Donc, c'est un mélange assez explosif pour une pression. Donc, pour quelqu'un...
La tempête parfaite.
En fait, il faut se rappeler que c'est des humains aussi, donc il y a une famille. Donc, ils ont une vie en dehors qui peuvent aussi, qu'on oublie. Mais comme c'est des humains, mais ils ont aussi une famille à l'extérieur. Donc, peut-être qu'il peut y avoir aussi d'autres enjeux, d'autres pressions supplémentaires.
Puis je prends ta balle au bon, Régent, en disant, tu dis que les entrepreneurs, c'est des toughs. Puis moi, je dis que, au moins pour les hommes, parce qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs aujourd'hui, mais au moins pour les hommes, ben, ces toughs-là, encore une fois, ils ne diront pas à leur femme, aller voir un psychologue, parce que je ne file pas. Là. Mais là, ça prend 10 minutes sur le site. Moi, j'autorise la personne, puis elle peut aller, puis elle peut faire les tests, puis ça produit les résultats, puis on le sait.
Puis après ça, bien, comme tu disais tantôt, si jamais on fait une intervention auprès d'un CLSC ou d'un médecin, peu importe, bien, au moins, il arrive avec le contenu, l'information tangible.
Bien, c'est ça. Puis en même temps...
C'est plus juste, je file pas, là. Faut que je te raconte ma vie. T'sais, au moins, tu as du concret, ta barouette.
Bien, moi, j'en ai vu un aussi, un entrepreneur, qui, lui, il était affecté. Puis moi, j'avais parlé au téléphone, puis on lui a offert... Bon, ça a pas donné, mais à un moment donné, selon tout ce que j'ai pu comprendre, il s'est ramassé à l'hôpital. Parce que on aurait pu le traiter, mais il y a un paquet d'affaires qui est arrivé, puis c'est pas... Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, des fois, juste de le savoir à temps, ça peut permettre bien de la prévention, juste de le savoir à temps. Puis c'est pour ça qu'on a commencé à offrir ça. Encore une fois, c'est pas mon idée, c'était celle de Marie-Ève, mais c'est... moi, je trouve que c'est le fun de pouvoir faire ça. Tu sais, va le tester. Puis si ça va bien, puis il n'y a pas de problème, tant mieux. Puis sinon, ben peut-être qu'on va t'épargner le séjour à l'hôpital éventuel parce que...
Oui. Puis peut-être, tu sais, on parle de séjour à l'hôpital, mais tu sais, imagine-toi un président d'entreprise, une présidente qui s'absente, ça peut aller vers le... C'est au périple de l'entreprise.
Ben absolument.
Fait que là, c'est toute une vie, là. Des fois, c'est des économies, c'est des emprunts. C'est... Puis là, le stress, il arrête pas, là. C'est pas, ah, oh, ben là, moi, j'ai perdu mon business, on ferme les livres, c'est fini. Ah, non, attends un peu, là. Ça vire après le hamster, hein.
Non, ouais.
Wow.
Puis malheureusement, avant de quitter, il va se désengager un peu, il va manquer de temps, manquer d'énergie. Ouais. Parce que dernièrement, pour vous raconter une histoire, j'ai un client qui m'appelle puis qui me dit, écoute, Marie, je suis plus capable. Je suis brûlée, là. Puis sincèrement, je pense fermer ma business. Ça va plus, j'ai perdu le contrôle. Les gens, pourtant, je pensais avoir des bonnes personnes, mais il y a tout le temps du mémering partout, des chicanes, les gens font pas ce qu'ils en font, il y a de la jalousie. Bref, il m'expose une situation qui n'est pas super agréable. Je pense que j'ai toléré trop longtemps des gens que j'aurais peut-être pas engagés, mais à cause de la pénurie de main-d'œuvre, besoin d'avoir quelqu'un, bon, pour toutes sortes de raisons. Et là, on dit, bien, écoute, sais-tu quoi, on va prendre un temps d'arrêt, puis on va aller faire une petite session pour bien comprendre ce qui se passe. Fait qu'on réunit toute son équipe, puis on lui fait une journée de boost, là, où là, on revoit quelles sont les valeurs de chaque personne. On réapprend à se connaître, on réapprend à voir qu'est-ce qui est acceptable, inacceptable, et on leur apprend aussi, durant ce temps-là, à communiquer nos insatisfactions. Comment? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi j'ai tout le temps l'impression que c'est toujours moi qui fais tout ici, puis que mes collègues me laissent tomber? Puis comment je pourrais changer ça? À la fin de la journée, les gens, eux-mêmes, parce qu'on les a sensibilisés, vont nous dire « Hey, mais là, c'est du coup, je réalise que c'est moi qui fais le mémérage en boîte. » Et là, le silence de mort. Le silence de mort. Qui personne n'ose parler de dire « Bien, nous autres, on le savait depuis longtemps. » Et là, il y avait un espèce d'épuisement de tout le monde parce que tout le monde a contribué à sa façon, mais c'est beaucoup plus facile de regarder ce que les autres font que de se regarder. Ouais. Donc, des fois, d'avoir une espèce de diagnostic comme ça et de dire « Voici, on repart les bases. » Ça fait du bien. Et ça a fait en sorte que même le propriétaire m'a dit « Écoute, Marie-Ève, j'ai réalisé qu'il y a un paquet des choses que j'ai moi-même causées parce que comme j'étais fatiguée puis que moi, je me suis pas soignée, moi, j'ai pas pris soin de moi, bien, quand il arrivait ces chicanes-là, je les voyais, mais je faisais un peu semblant de pas les voir.
Ouais.
Parce que j'aime pas trop ça, moi, les gérer des RH. Fait que je voulais pas trop m'en mêler. Puis il va se désengager, mais il va créer, il va amplifier le phénomène jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va avoir perdu le contrôle. Donc, d'avoir de l'aide au bon moment, avant qu'il soit trop tard, d'avoir une sensibilisation, de dire, écoute, t'es pas dans nos bons chiffres actuellement. Peut-être qu'on devrait regarder quelque chose rapidement. Ça va peut-être permettre d'éviter ce genre de situation-là où, avant de dire, là, je vais tout lâcher, bien, il y a quand même eu un désengagement de dire, moi, je vais juste rentrer, faire le minimum que j'ai à faire. Puis tout ce qui demande un petit peu plus d'effort, parce qu'on va se le dire, gérer des chicanes, des émotions, hey, des brûlant, conflits, ça prend de l'énergie.
Ben oui.
Surtout si c'est pas ton domaine d'études, si c'est pas ton dada, ça va te demander un petit plus et c'est la première chose qui va enlever. Puis là, ça fait un effet domino en entreprise. Puis t'en as un, t'en as un deuxième.
Poutoum, poutoum, poutoum.
Et là, tout le monde finit par tomber au combat. Alors que c'est des gens qui, en situation normale, n'aurait peut-être pas tombé au combat.
Mmh. Oui, puis encore une fois, peut-être qu'un dépistage dans ces cas-là, ça peut s'avérer salutaire. Là.
Parce que, tu sais, c'est niaiseux, là, ce que je vais dire, mais tu as le test de grossesse.
Oui.
Non, mais tu veux savoir si tu es enceinte, mal au ventre, je t'ai étourdi, j'avais le goût de vomir, j'ai pris du poids, bien, il fallait le test. Là, écoute, tu as fait le test, t'es enceinte.
Ben,
là,
c'est ça.
Il n'y a plus de stress, là.
Ben non, c'est une belle, c'est une belle comparaison.
Ben, tu sais, là, c'est un autre stress. Puisque là, je t'en
sens. Un autre stress.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, non, mais c'est vrai, dans le fond, Pierre, on va aller chercher les réponses à nos questions dans,
ben
dans ces tests-là. Ouais. On parle d'équations. J'ai lu à un moment donné dans ton document, on parlait d'une équation là, que j'ai là. J'ai dit, j'ai hâte qu'il me parle de cette équation-là. Parce que, puis là, je voyais ton côté. Cartésien stratégique, là, tu sais, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il veut me dire par là? La volonté d'assurer un traitement, ça commençait comme ça. Tu me disais, je pense, dans le petit questionnaire, là, qu'on parle d'équation, une équation à résoudre. Fait que là, tu es arrivé avec une formule. Moi, je trouve ça intéressant parce que on pense pas à ça, nous autres, ces formules-là. Tu sais, on est comme, nous autres, on est dans notre tête, on va vite, tu sais, on a... Mais tu as des gens, justement, qui sont comme pharmapsy, qui arrivent avec des solutions, qui arrivent avec de quoi de tangible, enfin, du concret. Tu sais, le médecin, quand il fait l'opération, il dit pas « Ouais, là, je pense que ça devrait être ça. On va essayer ça, mais n'ai pas fait souvent des opérations de même, là, je sais pas.
Ouais. »
Non, Steve, peux-tu être un peu plus concret puis rassurant, tu sais? Alors, Pierre, tu avais une équation.
Ben oui, ben cette équation-là, c'est ça, c'était cette volonté d'assurer un traitement qui était adéquat, je dirais, un traitement qui garantissait là, que ça s'empire pas. Mais là, plus X, mon X, c'était comment je pars de cette volonté-là pour en arriver à un modèle d'affaires. Comment je pars de...
Ouais.
Puis là, ben c'est ça, ce X-là, ben encore une fois, c'est juste le vecteur, le véhicule dont j'ai parlé tantôt. Donc, ça nous prend quelque chose pour être capable de dire, ben voici, moi comme entrepreneur d'une compagnie XY, ben moi ça m'intéresse de travailler là-dedans parce que mais ce X-là, finalement, c'est le présentéisme. C'est l'effet du présentéisme. C'est ce que ça coûte, le présentéisme. Parce que...
Pis c'est concret, là, tu le vois, c'est là, ça. C'est là, là.
Donc, encore une fois, puis je reviens à ces tests-là, dépister. Puis l'autre chose aussi que j'ai pas abordée, mais que je m'en voudrais d'oublier de parler, c'est on fait du dépistage, j'en ai parlé. On fait aussi, quand on a besoin, quand on a des cas qui nécessitent de la psychologie plus des médicaments...
Les combinés,
ben oui, c'est ça. Ben on a notre démarche de suivi. Puis autant on se distingue par la proactivité de notre système de dépistage, bien on se distingue par l'intensivité de... Il n'y a pas personne d'autre que nous autres qui voit, quand on traite, là, on s'assure parce que trois quarts des gens arrêtent de prendre leurs médicaments
par trop tôt. Même.
Ah oui, trop tôt, parce que soit qu'ils ne donnent pas... normalement, c'est à peu près au minimum un an, disons.
Oui.
Bien, à 3 mois, les études, là on parle d'études publiées, c'est 72,4% des gens qui ont arrêté leur traitement à 90
médecin,
jours.
Sans parler aux médecins.
Ouais, bien, souvent, ils leur disent même pas. Hey. Parce que le médecin, bien, si je dis que j'ai arrêté de prendre mes pilules, il ne voudra plus me voir.
Ben non, c'est ça.
Tu sais, fait que, bien, c'est, encore une fois, les pharmaciens peuvent être intéressants de ce côté-là parce qu'ils vont le dire plus facilement aux pharmaciens.
Ah, ouais.
Ben oui.
Est-ce que le pharmacien, lui, puis question peut-être niaiseuse, mais est-ce que le pharmacien peut dire au médecin, il dirait, excuse, mais t'as un patient qui est supposé de prendre telle pilule à tous les jours ou tous les mois, il apprend plus? Non, je suppose.
Ben, dans le paradigme de pharmacie, disons ça comme ça, ouais. Ou dans la façon la philosophie de travailler de pharmacie, le besoin n'est pas vraiment de dire... c'est sûr que le médecin traitant va toujours rester... En communication avec le pharmacien, même s'il délègue le suivi au pharmacien. Mais le pharmacien est tout à fait formé, puis surtout les pharmaciens d'hôpitaux psychiatriques, tout à fait formés pour... Parce que les gens, ils arrêtent leurs médicaments la plupart du temps pour les effets secondaires.
Oui, c'est ça. Hein? J'ai pris du poids. On entend ça souvent.
Oui, c'est ça. Puis,
je suis plus agressif.
Ben, ou j'ai pas besoin de ça. C'est une béquille. Je suis capable de m'arranger sans
c'est fou
ça.
Comment les gens ont tendance à vouloir se spécialiser dans plein de domaines. Le plus bel exemple que je peux donner, là, que j'ai vu, c'est de me dire, à chaque fois que je vois quelqu'un se battre avec sa piscine, là, l'été commence, se battre avec sa piscine, là, tu vois des traitements en choc, là, ils rajoutent un petit peu d'autres produits, puis je me dis... Mais les compagnies de piscine, là, gratuitement, ils analysent ton eau pour te dire exactement la posologie que tu dois mettre dans ta piscine pour que ton eau, comme ça, elle revienne propre. Mais il y a encore des gens que je vois aller avec tout leur kit.
Mon là, voisin!
Non, j'ai pas besoin d'aller faire analyser mon eau, Marie-Ève.
Il y en a même un qui a fait une explosion dernièrement dans la région de Montréal.
Ça pas de mon sens.
J'ai pas besoin de ça. Pourquoi j'irais là? Parce que ça va être simple.
Oui.
Hein? Pourquoi? Parce que ça va être simple, ça te coûtera pas plus cher. En fait, ça va te coûter moins cher parce que tu vas sauver sur tes produits.
Ouais.
Ça va être plus rapide.
Tu feras pas d'explosion dans ta rue.
Puis t'auras pas toute la peau brûlée parce que t'as mis trop de produits. Mais non, il y a comme un blocage.
Mon beau-frère, il m'a dit que...
Oui.
Hey, Seigneur.
Je rajoutais un traitement en choc, puis c'est fini.
Mais on rit bien, là, mais c'est ça pareil, même dans la médecine,
absolument.
Tu sais, dans les médicaments, moi, essaye ça, tu vois, ça a passé, moi, mes... Hein? Ah ouais. Tu sais, puis ça se passe des pilules, à un moment donné...
Oui, moi, puis ça, il n'y a rien de pire que ça.
Tu m'as vu, là, de ça, là. Hey.
Mais de façon générale, c'est que les gens arrêtent leurs médicaments, puis soit ils empêchent l'effet de se produire, ou soit ils empêchent la protection contre la récidive éventuelle de se produire.
Oui.
Puis dans tous les cas d'espèce... C'est la plus sûr chemin vers la récidive puis vers la chronicisation de la maladie.
Absolument.
D'arrêter ces pilules. Puis, ce que je veux dire, c'est qu'un pharmacien, qui est mieux formé pour dire « OK, tu as tel effet secondaire, fine. Voici telle et telle solution qu'on peut t'offrir. »
Ils ont des compléments, c'est ça.
C'est ça.
Ben
puis, ou bien, puis si la médication n'est pas efficace, parce que ça aussi, on le mesure.
Ça peut arriver aussi,
C'est ça. Mm-hmm. Ben, à ce moment-là, la médication n'est pas efficace. Il y a à peu près au-delà d'une vingtaine de médicaments différents qui peuvent être utilisés pour traiter la dépression.
Imagine.
Ben,
là, si on ne le fait pas, l'autre va faire certain.
Ben oui, mais c'est parce qu'il s'agit de savoir lequel. Oui,
c'est ça. Il ne faut pas t'en prendre 19 avant de trouver le bon.
Ben c'est ça. Mais c'est là que les pharmaciens... Mais pour en revenir à ta question de départ, le pharmacien va gérer ça avec le médecin traitant, toujours. Le médecin est toujours traité. D'ailleurs, sur notre site Internet, les médecins ont une fenêtre pour aller voir tous les patients dont ils sont responsables.
En direct.
Ouais.
N'importe quand.
N'importe quand.
Ils ont un accès au dossier.
Ils ont un accès au dossier sur ce qui a été fait par le pharmacien, mm-hmm. sur tous les résultats des tests. Et puis, cet accès-là est permanent. C'est ça. Donc, le pharmacien ne va pas appeler le médecin. Il va plutôt dire, ben là, il voulait arrêter à cause de telle affaire. Ben, on a changé pour tel autre médicament. T'es-tu d'accord avec ça? Puis le médecin va dire, ben oui, OK, ça fait du sens. Fait qu'on continue comme ça.
Parce que les pharmaciens, on dirait qu'on a tendance à les négliger. Ben, pas les négliger, mais on les voit comme des gens qui sont là un peu pour nous... permettez-moi l'expression, mais nous passer pilule. C'est pas ça.
Non. Hey. C'est les experts du médicament. Puis encore une fois, les experts dans les hôpitaux psychiatriques, on a là les experts. Moi personnellement, là, j'ai été représentant, là, puis j'ai vu, puis d'ailleurs, mon associée pharmacienne, c'est comme ça que je l'ai connue. Je voyais quotidiennement, là, elle répondait au téléphone, puis des psychiatres l'appelaient, puis je veux prescrire telle affaire à mon patient, puis elle a dit, ben tu devrais peut-être souvent regarder tel autre médicament à cause des interactions, à cause de c'est peut-être plus adéquat celui-là, puis ça finissait invariablement par avoir son opinion qui prévalait.
C'était quasiment elle qui avait raison, hein, c'est ça?
Ben c'est ça, mais je veux dire, elle le faisait avec beaucoup de courtoisie.
Mais ça reste que la logique, c'était que c'est elle qui avait la solution.
Mais c'est ça, puis moi, tu me demandais tantôt d'où ça partait, pharmacie.
Ouais, ben oui.
Ben ça part de là, ça part de ces fois-là où j'étais avec Jacinthe Leblanc, qui est la pharmacienne
avec qui associée.
Oui. Et puis là, j'étais dans le petit office, là, dans la pharmacie à l'hôpital Robert-Giffard. Puis là, elle disait, j'étais en train de parler, je faisais mon petit laïus comme représentant. Puis là, elle disait, attends une minute, puis là, elle prenait le téléphone, puis là, je la voyais. Puis à un moment donné, j'ai dit, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là, puis il faut... Puis c'est pas
exploité. Il faut simplifier cette...
Non, mais il faut aller chercher cette expertise-là qui n'est pas utilisée. Dans le système de santé actuel, utilise cette expertise-là?
T'as raison.
Mais il y a PharmaPsy qui l'utilise.
Wow. Puis là, en terminant, de même, PharmaPsy.com, c'est bien .com, hein?
Oui.
OK. Aujourd'hui, on ne le sait plus. PharmaPsy, alors c'est facile. On rajoute P-S-Y après le mot pharma. .com. On peut s'inscrire, on peut devenir un lecteur, un membre.
C'est-à-dire que nous autres, comment on procède, c'est qu'on avait besoin, je refais un marchand arrière, on avait besoin de notre véhicule pour faire un modèle d'affaires.
Oui.
Alors, nous autres, on vend une espèce de police d'assurance aux compagnies. Mais, donc, les gens, à partir du moment où une compagnie XY signe avec nous autres, on va ouvrir les espaces privés à tous les employés.
Je comprends.
Puis ce que
de là, l'onglet « Mon espace ».
Absolument.
Dans l'espace, justement, un espace « Mon espace », hein, qui est sur ton site pharmapsy.com. Donc, les gens prennent contact avec toi?
En fait, oui, il y a plusieurs façons de prendre contact avec moi. Il y a sur le site de PharmaPsy, on peut prendre un rendez-vous avec le côté démonstration de PharmaPsy.
Oui.
J'ai mon numéro de téléphone qui est disponible aussi sur LinkedIn.
Pierre Bourassa, parce qu'on l'a-tu dit? On a dit salut Pierre Bourassa au début, on peut le redire.
Pierre Bourassa, PharmaPsy. Donc, disponible par Zoom via les liens de demander une démonstration sur le site de PharmaPsy. Disponible par téléphone, vous allez trouver le numéro de téléphone qui est sur PharmaPsy. C'est mon numéro de téléphone. Et par email, bien évidemment aussi.
Je trouve ça le fun, Pierre, quand tu disais tantôt que les gens peuvent justement gratuitement. Des fois, un dirigeant, il est un peu perdu. Il se dit, bon, là, je fais quoi avec ma gang? J'appelle qui? Alors que PharmaPsy.com, il peut déjà entrer membre dans, j'appelle ça manque parce que c'est quand même un espace réservé à lui.
En fait, j'aurais le goût de dire aux entrepreneurs, faites-vous donc ce cadeau-là. Ben, là. Oui, allez voir comment ça va. Là. Ben, si ça va bien, tant mieux, on est dans le meilleur des mondes. Si ça va moins bien, il faut s'en occuper le plus vite possible si ça va moins bien.
Il y a des outils.
Il y a des outils, on peut s'en occuper. Puis il n'y a pas de mal là. Ben au contraire, il y a des avantages.
Absolument. Moi, j'adore ça, Pierre. Je suis bien content aujourd'hui de t'avoir reçu parce que, justement, je trouve que c'est un service essentiel. C'est du nouveau pour moi. En tout cas, c'était de l'inconnu. Alors, de savoir que, par le biais, justement, d'un petit clic, qui pourrait peut-être changer bien les choses dans mon entreprise... avec Marie-Ève Drouin qui était là aussi pour nous appuyer au niveau des RH parce qu'on le sait, on a parlé d'absentéisme, absentéisme, tous ces mots-là qui finissent en is, ça fait des séismes. Pierre, on aimerait ça, nous autres, l'équipe dans la jungle des affaires, on fait ça souvent avec nos individus qui viennent nous rencontrer, nos êtres humains, parce que c'est des êtres humains qu'on reçoit, de nous laisser des fois une petite leçon, sans prétention, tu sais, des fois, quelque chose qui t'a servi dans la vie, ou moi, je te lance l'idée de nous lancer ça, de nous shooter ça en français.
ça, en tout cas, je ne sais pas, mais je dis, moi, je pense que la meilleure leçon de vie que j'ai appris, je l'ai appris de mon père, qui est décédé aujourd'hui depuis quelques années déjà. Mais mon père, c'est un grand scientifique, puis en même temps... c'est un gars qui a eu énormément de succès dans la vie, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a toujours su rester humble, puis surtout, qui a toujours su profiter de la vie, juste prendre avantage de la vie. Il y a des affaires pas drôles dans la vie, mais il y a toujours des affaires drôles dans la vie. Puis juste prendre la vie comme elle est, en faire le meilleur mélange possible, puis... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la plus grande leçon.
T'amuser dedans, rentrer dans la vie.
C'est ça.
Wow,
c'est
quelle belle leçon, c'est le fun. Puis quand ça vient de nos parents, on dirait, quand ça vient d'un père, une mère, tu sais, on dirait que c'est toujours plus puissant. Merci Pierre, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, ça m'a fait énormément plaisir.
Merci de ta belle présence. Merci Marie-Ève Drouin. Madame Drouin de RH Drouin. Drouin RH, on dit Drouin RH.
Drouin Ressources Humaines, exactement.
Oui. C'est plus important, Drouin, parce que c'est Drouin qui nous amène des solutions. Je pourrais être un bon représentant, moi aussi, des fois. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir.
Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.